Radio G 101.5 FM.
Mais dites-moi, il est 20h sur Radio G. D'attente pour nous retrouver sur l'antenne de Radio G avec confinement, déconfiture, tout ce que vous voulez qui commence par un D. Et nous y voilà, c'est la rentrée radiophonique de Radio G, saison 2021-2022. Comme nous sommes heureux de vous retrouver. Alors toute l'équipe n'est pas encore rentrée, mais il n'empêche qu'on va avoir le plaisir d'être ensemble 7 heures durant sur Radio G 101.5 à Angers. Pendant une heure, nous allons revenir un peu sur cette année écoulée. Et pour revenir à notre dernière émission, où nous avions commencé une première partie sur la thématique de la religion tout en étant LGBTI. Alors comme c'est très très loin, pour tout vous dire très exactement, c'était le 22 octobre 2020 où nous avions cette première partie d'émission. Eh bien évidemment, vous ne vous souvenez plus de ce que nous avions échangé et des invités que nous avions eus. Donc très naturellement, ne vous inquiétez pas, nous allons tout simplement, mais alors le plus naturellement possible, eh bien revenir sur ces échanges et nous allons réécouter quelques extraits de nos invités à l'époque de notre rencontre. Et puis, de cette façon, eh bien, vous êtes sûr et certain que vous serez complètement dans le move et dans l'ambiance pour écouter l'interview que nous avions réalisée de Jean-Michel Dunant, qui était apparu, pour celles et ceux qui le savent, dans le documentaire sur les thérapies de conversion, tout du moins contre les thérapies de conversion sur Arte, et qui est également prieur de la communion Béthanie. C'est bien parti pour ça. Finalement. Mais avant, l'agenda Q pour Quasar, Q-U-A-Z. Mais au fait, Quasar, qu'est-ce que c'est avec ce nom particulier? Eh bien, c'est le centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe plus, parce qu'il y a d'autres identités et d'autres personnes qui nous rejoignent. Donc, c'est le centre qui est situé à Angers, 15 rue de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, quand il n'y a pas de Covid, on y fait plein de choses. Et puis, quand il y a le Covid, ben, on s'adapte. Alors, par exemple, il y a tous les premiers dimanches du mois une rencontre jeu de société détente pour les demandeurs d'asile, mais les adhérents, ceux qui veulent venir faire leur connaissance, peuvent les rejoindre, tout cela dans nos locaux. Et puis il y a tous les rendez-vous individuels possibles sur toutes les thématiques, l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Actuellement, nous en reparlerons tout à l'heure avec une invitée, nous sommes débordés des contacts des parents sur la question de la transidentité. Donc on abordera ces différents points tout à l'heure. Les rendez-vous individuels aussi, donc je vous l'ai dit, puis les rendez-vous de groupe selon les thématiques, le pôle droit des étrangers et étrangères, le pôle team trans, le pôle juridique aussi qui vous reçoit et qui n'a pas tout à fait chômé pendant toute cette période. Donc nous sommes vraiment le pied au plancher. Quant aux activités de groupe, elles vont redémarrer tout doucement, on vous dira exactement, mais laissez-nous respirer. Pourquoi? Tout simplement parce que le 25 septembre prochain, on vous l'annonce, on vous le dit, notez sur vos agendas, bloquez, dites à vos amis de venir. Samedi 25 septembre à Angers, c'est la Pride avec deux événements, la marche des fiertés LGBTI à 14h. Mais avant, vous aurez rendez-vous à 11h, Esplanade, cœur de Maine, nouvel endroit pour pouvoir être nombreux, ne pas se contaminer les uns les autres, pouvoir avoir beaucoup d'espace et beaucoup d'air au bord de la Maine. Donc Esplanade Cœur de Maine, la Pride, double événement, la marche à 14h et dès 11h, l'ouverture du village. Vous pourrez venir croquer un morceau, rencontrer plein de gens, faire connaissance des associations qui pilotent un peu toute cette jolie journée qui sera bien évidemment intéressante et éprouvante. Mais finalement, on a plein de choses à dire encore et donc c'est l'occasion rêvée de pouvoir le faire tous ensemble et évidemment dans la bonne humeur, mais véritablement dans la nécessité de tout ce que nous avons à dire. Nous nous entrons dans le vif du sujet et nous revenons sur cette thématique donc d'être croyant et LGBTI en même temps. Comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité-là ? Eh bien, nous avions des invités il y a donc de très 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 nombreux mois et je vous propose de réécouter la première intervention des personnes que nous avions reçues à l'époque. Elles représentaient le collectif croyant LGBTI Anjou. C'était Alex Legrille de David et Jonathan, Claire Mérieux pour le collectif et puis aussi une autre invitée, mais là pour le coup je vous laisse redécouvrir nos invités.
Fêter ses 50 ans l'an prochain. Elle a été fondée par un groupe de personnes, dont entre autres Jacques Perrotti, qui était l'ancien secrétaire de l'abbé Pierre, avec une double mission. La première, c'est de pouvoir accueillir et accompagner des personnes donc chrétiennes, mais de toutes les sensibilités chrétiennes, qu'elles soient catholiques, protestantes, orthodoxes et homosexuelles et transgenres, de pouvoir les accueillir, les accompagner dans la conciliation de cette double identité, avec un esprit de confidentialité, voilà. Et la deuxième vocation de David et Jonathan, c'est vraiment de porter un message dans les communautés religieuses et auprès des pouvoirs publics sur les questions de discrimination liées à l'homophobie religieuse et pour faire avancer l'inclusivité des personnes LGBT dans les communautés religieuses et en particulier chrétiennes. Mais on pousse l'ouverture œcuménique jusqu'aux autres religions. Il y a très régulièrement des événements avec les associations musulmanes, mais aussi le Beit HaEverim, qui est l'homologue de David et Jonathan pour la communauté juive. Et on travaille aussi avec des associations qui visent à la promotion de la coexistence, notamment l'association Coexister, avec qui travaille beaucoup.
Alors Claire et Estelle, vous représentez ce fameux collectif croyants et croyantes LGBT Anjou. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue cette idée et en quoi cela consiste-t-il ?
Je vais d'abord commencer par un petit témoignage personnel. Donc je suis Estelle, j'ai 26 ans et je suis angevine, j'ai grandi à Angers. Je viens d'une famille chrétienne, catholique, et j'y ai reçu finalement toute l'éducation, peut-être un peu traditionnelle, sans non plus qu'on me force à aller à l'église ou en tout cas au catéchisme. Il se trouve que quand j'étais adolescente, donc 14-15 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Le jour où, surtout, je suis tombée amoureuse d'une jeune femme. Et là, c'est posé beaucoup de questions a commencé un cheminement interne du fait que est-ce que je pouvais concilier ma religion, ma foi chrétienne, avec mon orientation sexuelle. Et ça a été un cheminement assez difficile, assez long, puisque je me sentais très seule. Étant donné que dans les groupes, en tout cas dans lesquels j'étais reçue en retraite religieuse, notamment pour la préparation par exemple de la confirmation, il y avait des propos qui n'étaient pas très LGBT friendly.
Et puis tu n'avais pas de modèle positif.
Exactement. On était en 2010, dans les années 2010, donc avant le mariage pour tous. Et à la suite de ça, dans ma vie d'adulte, de jeune adulte, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré notamment Claire, qui est à côté de moi et avec qui nous avons accroché sur ces sujets-là, au-delà de l'amitié que nous avons. C'est aussi ce qui a été fondateur, je pense, pour...
Et toi, Claire ?
Donc, j'ai un peu le même parcours qu'Estelle sur le sujet familial. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés à Angers à plusieurs... dans ce cas-là, ce qui est assez chouette, parce que, comme le disait Estelle, c'est des sujets sur lesquels on n'ose pas forcément s'exprimer, en tout cas dans des cadres religieux. Là, il se trouve qu'on a eu la chance d'en parler ensemble et d'avoir le projet de monter ce collectif-là. Donc on a organisé plusieurs rencontres, dont une avec l'association Contact, qu'on remercie d'ailleurs de cette opportunité d'échanger avec eux. L'objectif de ces rencontres, alors il y a plusieurs formes. Il y en a une qui consiste plus à réunir des personnes qui ont besoin de parler de ce sujet-là, donc soit des personnes qui sont directement concernées par la question, mais aussi des accompagnateurs éventuels qui travaillent ou qui sont bénévoles dans des associations chrétiennes ou autres, et qui ne connaissent pas le sujet, donc qui ont besoin d'être informés et sensibilisés sur ce sujet-là. Et effectivement, on fait aussi des rencontres avec des invités de marque, dont Jean-Michel Dunant, donc, qui est venu samedi à Angers.
Parce que vous organisiez donc une conférence qu'il donnait avec le public qui pouvait venir poser des questions sur cette question justement de comment concilier sa foi, en tout cas de lui, de son expérience, dans son témoignage, et en même temps, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme stratégie contre les thérapies de conversion, et aussi vis-à-vis de l'institution catholique, entre autres.
Exactement, c'était un moment très fort parce qu'en plus on a pu le faire au sein du diocèse d'Angers et en partenariat avec la librairie Biblos, donc qui est la librairie du diocèse. Et voilà, dans la salle étaient présents aussi, encore une fois, des personnes issues de communautés religieuses. Mmh. Qui ont pu entendre ce témoignage qui était vraiment simple et sans tabou, et je pense et j'espère que, enfin, on a eu des retours déjà de quelques personnes que ça aura des répercussions sur par la suite
sur le diocèse, c'est ça?
Voilà.
D'accord. Et si on veut contacter le collectif, on s'adresse où, comment, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, nous avons une adresse mail. C'est croyant LGBT Anjou. Alors,
oui.
Croyant avec un S. Mmh. LGBT Anjou en minuscule, bien sûr. @gmail.com.
Radio G. 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Panel invité essentiellement féminin de croyants LGBT Anjou, mais nous avions une pluralité par rapport au public et par rapport aux foi exprimées. Alors, ne restant pas que sur l'expérience protestante, catholique en règle générale et chrétienne, eh bien, nous nous sommes tournés vers Ludovic Mohamed Zayed, une personne que nous connaissons bien, mais je vous laisse plutôt le découvrir. Maintenant, avec nous, il s'agit du docteur imam Ludovic Mohamed Zayed. Bonjour Ludovic. Il nous appelle donc depuis Marseille. Alors, on te connaît comme pour avoir été le fondateur de HM2F, homosexuels et musulmans de France. Et tu es aujourd'hui directeur de l'Institut Calem. Alors, il y a plein de questions, hein, on va les balayer relativement vite. On va parler d'islam, évidemment, de foi en lien avec son orientation sexuelle ou identité de genre. Mais qu'est-ce qu'un imam en islam, et surtout, qu'est-ce qu'un imam inclusif comme toi?
Imam en arabe, ça vient du terme amam, donc être devant les gens pour faciliter des prières, des bénédictions. Ça n'est pas pour moi un statut, c'est une fonction à un moment donné. Ça n'est pas quelque chose qui est hiérarchisé comme dans l'église catholique ou d'autres églises, d'autres communautés religieuses qui ont fonctionné autrement. L'islam s'est plutôt constitué dès le début sur la question d'un leadership morcellaire, régional. Et du coup, les imams sont là dans telle ou telle communauté pour essayer de faciliter des pratiques religieuses, des dynamiques sociales communautaires. Ça n'est pas du tout pour moi un statut.
D'accord.
Et être inclusif, c'est rappeler que quand on dit islam, c'est le fait d'être en paix. C'est ce que ça veut dire en arabe, et ça ne veut pas dire soumission, contrairement à la traduction qu'en font certains intellectuels. Mm-hmm. Donc le fait d'être en paix, ça n'est pas compatible, de mon point de vue, avec le fait d'exclure qui que ce soit sur la base de ses origines, de son sexe, de sa sexualité, etc.
Alors, qu'est-ce que l'Institut Calem? Peux-tu nous en dire quelque chose en quelques mots?
Alors, l'Institut Calem, c'est un centre à Marseille, en centre-ville, où on fait principalement de la recherche, de la publication, de la formation sur ces questions-là. Et on fait aussi de l'accueil avec un petit refuge qu'on a, où on a 6 places d'accueil dans le pavillon du jardin de l'Institut, où on peut accueillir des gens qui sont principalement, prioritairement, des personnes migrantes LGBT+, originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, qui sont pour certains, pour la plupart, de confession musulmane ou d'origine musulmane, mais pas tous.
Alors, peux-tu nous dire, entre le Coran, les hadiths, est-ce qu'ils contiennent véritablement la condamnation explicite de l'homosexualité, ou comme pour les chrétiens et les protestants dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est une question d'interprétation ou de restitution du texte dans son contexte historique et social ?
Alors, déjà, le terme homosexualité n'existe pas en arabe. Voilà. Récemment, voilà, on a mis à jour le vocabulaire. Donc, c'est el-methli al-jinsiya, donc la même T, identitaire, sexuelle. Donc, l'homosexualité a été, c'est un terme qui a été traduit il y a quelques années à peine, hein, une petite dizaine d'années par des associations LGBT+, arabo-musulmanes. Il n'y a rien dans le Coran ni dans la tradition du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui condamne l'homosexualité ad nominem. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est rapportée dans le Coran de manière assez détaillée, dans plus de 70 versets, avec le fait qu'il voulait violer des hommes, mais aussi violer les femmes, donc notamment les filles de Lot, que la femme de Lot a été condamnée par le jugement divin à l'époque, bon, c'était il y a plusieurs milliers d'années quand même, parce qu'effectivement le contexte, comme tu le rappelais tout à l'heure, le contexte était un contexte très patriarcal, où certains peuples de Mésopotamie s'adonnaient au viol rituel, au temple de la déesse Ishtar, etc. Donc vraiment, il n'y a rien qui lie directement la question de l'homosexualité telle qu'on la conçoit aujourd'hui à cette condamnation de Sodome et Gomorrhe dans le Coran. Et dans la tradition du prophète, il y a pléthore de hadiths, de traditions qui nous rappellent que le prophète accueillait ou aurait accueilli, parce que j'y étais pas il y a 14 siècles,
des
personnes efféminées. Voilà. Je me fais vieux, mais pas à ce point-là. Et il aurait donc accueilli chez lui des personnes, des hommes efféminés qui n'avaient pas de désir envers les femmes, au milieu de ses enfants et de ses femmes, qui ne se voilaient pas devant eux, parce qu'elles n'avaient rien à craindre.
Bon. En islam, est-ce qu'il existe toutes ces questions de thérapie de conversion, du moins comme on les voit dans certains milieux catholiques ou évangéliques, ou est-ce que ce sont d'autres formes qui sont utilisées ?
Alors, il n'y a pas de thérapie de conversion, à ma connaissance. Il y a certains exorcismes qui sont pratiqués depuis peu. Ben, c'est toujours pareil, le pire vient voilà, dans les années qui nous précèdent. Là, c'est assez récent, ces pratiques-là qui sont apparues d'abord en Afrique du Nord. Moi, quand je vivais en Algérie jusqu'à 1995, j'ai connu des gens qui se faisaient exorciser, qui le demandaient d'ailleurs, mais enfin bon, après la pression sociale est telle, parce qu'ils ressentaient des désirs homosexuels. Enfin bon, voilà, bien évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a absolument aucune tradition prophétique là-dessus. Il y a deux traditions qui sont rapportées aux prophètes, qui leur aient dit ceci, cela, mais enfin, c'est des traditions qui ont été rapportées plusieurs siècles après sa mort par des gens qui n'étaient pas considérés par des savants comme des gens de confiance. Donc vraiment, ces thérapies ou ces exorcismes-là, non seulement ne fonctionnent pas, ne correspondent à rien d'authentique en islam, à ma connaissance, et surtout, c'est des procédés qui sont apparus assez récemment, il y a quelques années, quelques décennies tout au plus, parce qu'on a commencé à voir dans le monde arabo-musulman l'homosexualité comme quelque chose d'occidental, qui vient des colons, des colonisateurs, tout ça. Mais bon, tout ça, c'est très récent. Oui. C'est devenu associé à l'islam parce que, d'un côté comme de l'autre, de l'échiquier politique aux extrêmes, on a envie de faire croire que ce soit les islamistes, comme on dit, d'un côté, ou les racistes, on va dire. On a envie d'associer, voilà, le fascisme, le patriarcat à l'islam, et je pense que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et que l'islam est une création humaine, communautaire, qu'il évolue, qu'il respire, et que parfois on tombe dans des fossés dont on essaiera de sortir à l'avenir, on n'a pas le choix.
Radio G. 105 FM.
Radio G. Quasar Anzière revient dans quelques secondes. I know. Try, but I'm hopeless.
trading fights and emeralds. I've never been on time for you. I break the rules and protocols, and I just keep on missing you. Straying nights, and after all, would you be waiting if you knew you're just alone and cynical? But I will never not need you. I will never not need you. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness. I know in the process, I do try, but I'm hopeless. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness. I do try, but I'm hopeless.
Woodkid, à l'instant, In Your Likeness.
Radio G 101.5 FM.
Cet épisode, le premier épisode de la saison 2021-2022 de Quasar en Dière, l'émission du centre LGBTI+ d'Angers, nous nous sommes replongés dans notre thématique d'il y a plusieurs mois, c'est-à-dire le temps où nous abordions la question de la foi, de pouvoir assumer d'être LGBTI et en même temps croyant, quelle que soit la foi qui nous habitait. Et dans cette réalité-là, nous avons entendu nos invités de croyants LGBTI Anjou, plutôt d'obédience chrétienne catholique, et puis à l'instant le docteur et imam Ludovic Mohamed Zayed. Et puis maintenant je vous propose d'écouter quelqu'un d'un peu singulier, il s'appelle Jean-Michel Dunant. Il a témoigné dans le documentaire diffusé par Arte il y a déjà maintenant un an et demi contre les thérapies de conversion, et il en a véritablement fait son combat. Je vous propose de découvrir une interview réalisée fin 2020, Jean-Michel Dunant de la Communion Bethany.
Quasar en Dière accueille maintenant Jean-Michel Dunant. Il est le prieur de la Communion Bethany. Il nous expliquera dans quelques instants ce dont il s'agit, quels sont les objectifs de cette Communion Bethany, mais il est aussi l'auteur d'un livre, Libre de la honte à la lumière, paru en mars 2011 aux presses de la Renaissance. Et puis, il est aussi un des témoins de ce documentaire qui a été diffusé sur Arte il y a à peu près un an maintenant, c'était le 26 novembre 2019, qui avait pour titre « Homothérapie, conversion forcée ». Jean-Michel Dunant, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Alors on ne va pas se mentir, on se connaît bien, donc on va se tutoyer, ça sera plus pratique.
Avec grande joie et grand plaisir.
D'où vient la Communion Bethany et qu'est-ce que signifie d'être prieur de la communion Béthanie ?
Un prieur, déjà, c'est étymologiquement le premier de cordée. Bon, c'est un peu d'actualité, mais à vrai dire, c'est celui un peu qui est le pôle d'unité de cette communion, celui qui donne un peu l'élan profond. La communion Béthanie, c'est très simple, à vrai dire. C'est une fraternité de prière œcuménique, donc rassemblant des chrétiens de différentes confessions, protestants, orthodoxes, catholiques, anglicans, pour l'instant essentiellement des protestants et des catholiques, qui sont réunis donc dans un désir de vie intérieure, une vie de prière, d'intimité avec le Christ, de fraternité aussi réelle. Alors, c'est pas une communauté de vie, nous ne vivons pas sous le même toit, mais nous nous retrouvons deux fois dans l'année pour une retraite spirituelle, très souvent dans un monastère, donc dans un beau lieu à l'écart pour recharger nos batteries spirituelles et puis aussi réactiver, réenclencher, si je puis dire, toujours notre vie fraternelle qui est toujours à recommencer. Alors elle est ouverte à toutes et à tous, mais de manière particulière aux personnes homosensibles et transgenres et à leurs proches. Voilà, c'est un petit signe dans notre monde, dans notre société, dans notre Église, que la fraternité est possible.
Homosensible, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi pas homosexualité ?
Oui, bah, je ne me battrai jamais sur un mot, mais je pense que on ne peut jamais enfermer une personne dans sa génitalité, même si sa sexualité, sa génitalité est très importante et constitutive de chaque personne. Mais la sexualité, on le sait bien, est une réalité tellement subtile, tellement complexe, qui évolue avec les saisons de la vie, avec bon, différentes réalités, que moi j'ai préféré le mot homosensible parce qu'au moins il nous libère d'une certaine manière de la sexualité. Il est beaucoup plus englobant, si je puis dire. Il touche à la fois notre relation à l'intime, bien sûr, à la vie sexuelle, à la vie affective, à la tendresse, à notre relation à l'art, à la vie en société. Enfin, voilà, c'est une sensibilité, c'est une poésie aussi, quelque part, et quelque chose de créatif dans le mot homosensibilité. On crée avec sa sensibilité. Donc ça me paraît être un mot... Alors, je sais pas si on peut dire ça en français, mais j'ose le dire, un mot respirant, voilà, un mot respirant.
Est-ce que ce n'est pas plus facile aussi de pouvoir s'adresser à des hommes d'église et une fois que le terme sexualité est absent de l'échange, le rapport et les échanges, le dialogue est différent parce qu'il ne s'enferme pas dans cette protection qui est de distinguer la personne des actes?
Alors oui, sans doute, j'ai beaucoup utilisé ça, surtout au début de la communion Béthanie, il y a une petite vingtaine d'années. Oui, c'est vrai. Et en même temps, aujourd'hui, je crois qu'il faut tenir ça, effectivement, pas bloquer les personnes, ni les personnes qui sont dans les institutions, mais en même temps... aujourd'hui, quand il faut parler de sexe, j'en parle, quoi, parce que ça suffit, j'allais dire, d'être dans le déni et puis de mettre sa tête sous le sable. Je crois qu'il faut aussi employer les mots. Tu faisais allusion tout à l'heure à mon livre témoignage. Déjà en 2011, j'ai appelé un chat, et quand il s'est agi de parler de ma sexualité, bah pour le coup, je me suis mis à poil, c'est le cas de le dire, mais je le regrette pas. Et aujourd'hui, quelles que soient les instances, je peux être invité à la conférence des évêques de France à Paris, avenue Breteuil, ou me retrouver dans des groupes plus restreints, quand il s'agit de parler de sexualité, j'en parle. C'est pas parce que je me présente comme une personne homosensible que je n'emploie pas des mots cash aussi, de temps en temps, quoi.
Ton livre, Libre de la honte à la lumière, paru en mars 2011, a eu quel accueil? Et rétrospectivement, au regard du documentaire dont on va parler, de la thématique des thérapies de conversion, qu'est-ce que ça a eu comme écho?
Je pense que dès le début, c'est un livre qui a beaucoup circulé dans le monde francophone jusqu'au Canada. J'ai beaucoup eu de relations, et j'en ai encore aujourd'hui, puisqu'il a toujours été réédité depuis mars 2011, avec différents lecteurs. Donc je pense que c'est un livre qui a fait son chemin, qui fait son chemin, il faut parler au présent. Au début, qui a eu un accueil, j'allais dire modéré, dans les librairies Cato, enfin, ça dépend lesquelles, ça dépend beaucoup des personnes, mais je pense que comme il a été diffusé par les presses de la Renaissance et qu'il a donc été diffusé dans des librairies totalement laïques, si je puis dire, il a fait son chemin. Rien n'a pu empêcher à ce livre de faire son chemin, finalement. C'est ça qui est assez beau dans l'histoire de ce livre. Et puis ensuite, le cœur du propos, qui n'était pas simplement le coming out gentil d'un petit cato pas méchant et pas trop dangereux parce qu'un peu contemplatif, donc considéré un peu comme entre ciel et terre, bon voilà, bon. Donc donc ça n'allait pas faire trop de vagues, mais le cœur du livre, c'est-à-dire ce que je dénonce clairement, noir sur blanc, c'est-à-dire ce que l'on appelle aujourd'hui les thérapies de conversion, à savoir par des moyens dits spirituels, prières de guérison, de délivrance, pour ma part exorcisme, essayer de faire changer l'orientation sexuelle de quelqu'un, ce que j'ai vécu dans les années 90, ça a été entouré d'une omerta pendant plusieurs années, on n'en a absolument pas parlé, personne dans l'église n'a relevé cela. Et il a fallu attendre, il y a à peu près 2 ans et demi, maintenant 3 ans, deux jeunes journalistes, Jean-Loup Adenor et Timothée Droglaude, qui étaient à l'époque élèves à l'école de journalisme de Lille, et qui ont décidé de faire leur travail de fin d'études sur cette question des thérapies de conversion. Donc ils ont commencé à enquêter aux États-Unis d'Amérique, où ça c'est très connu. Et puis dans leurs enquêtes, ils se sont rendus compte, au fur et à mesure de leur travail, que c'était des réalités, et ils sont un peu tombés des nues, qui existent aussi dans l'Hexagone. Toujours dans leurs recherches, ils sont tombés sur mon livre, et puis en lisant mon livre, enfin c'est surtout Timothée au début qui, lisant mon livre, se dit « mais finalement c'est ce que Jean-Michel Dunant a vécu ». Alors c'était bien sûr pas nommé de la sorte, et ils sont donc venus vers moi, on a travaillé ensemble, et ce travail a abouti avec Bernard Nicolas, qui est un réalisateur, qui était en même temps leur professeur à l'époque à l'école de journalisme de Lille, ce documentaire « Homothérapie conversion forcée », qui effectivement alors est sorti l'an dernier sur Arte, et qui maintenant fait son chemin sur YouTube. J'ai entendu là ces derniers jours qu'il y avait une version maintenant au Canada, enfin au Québec, et puis le fait que ce soit porté par la chaîne Arte, il a circulé énormément en Europe, en particulier en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays européens. Je crois que finalement c'est aussi en quelque sorte, alors je ne suis pas le seul témoin bien sûr, mais c'est aussi la poursuite, si je puis dire, de cette parole que j'avais initiée dans le livre. Donc il continue son chemin, ce livre, il est vivant.
Aujourd'hui, dans la réalité des thérapies de conversion, 2 questions. Est-ce que toi, à ta connaissance, ce sont toujours des pratiques dans l'Église catholique ou d'autres églises ou dans le christianisme, voire d'autres pratiques religieuses? Et la question adjacente, c'est est-ce que tu comprends le rejet d'un certain nombre de personnes, lesbiennes, gays, bi-trans ou intersexes, et d'autres sensibilités, qui rejettent toute approche de la religion, toute foi?
Oui, ça continue, ça continue. Alors, les groupes visés par Jean-Loup et Timothée dans leur livre « Dieu est amour » et puis ensuite dans le documentaire ont mis un peu le volume plus bas parce qu'ils ont peur. En plus, il y a un projet de loi, donc tout ça fait qu'ils ont mis un peu le volume plus bas. Ça continue dans d'autres groupes, ça continue dans les églises dites évangéliques de manière tout à fait, j'allais dire, sans se cacher. Là, il y a une véritable vigilance, je pense, qu'il va falloir regarder de très près. Ça continue dans certains courants plus traditionnels de l'Église catholique romaine, ça continue dans les églises orthodoxes. Et puis alors, et là c'est très difficile d'appréhender cela, c'est souvent des réalités qui se jouent de personne à personne, dans l'accompagnement spirituel, dans des tout petits groupuscules. Mais on a, depuis le documentaire, et quand je dis « on », je devrais dire « je » aussi, bien sûr, des témoignages, des confidences, et en particulier de jeunes qui sont touchés de plein fouet par cette réalité, et des groupes LGBTQI jeunes, ou en tout cas avec une population de jeunes en leur sein, témoignent de cela, et en particulier des jeunes qui ont été totalement fracturés alors dans leur démarche spirituelle. La deuxième question, bien sûr que je comprends, mais non seulement je comprends, mais je me demande souvent pourquoi moi-même je suis resté dans l'Église catholique après tout ce que j'ai pu vivre, toutes les personnes dangereuses, tarées que j'ai pu rencontrer, tout ce phénomène d'emprise que j'ai vécu. Pourquoi je suis resté? Je suis resté parce que, comme je le dis souvent en public, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré d'autres visages, j'ai rencontré la bienveillance, la bonté, la miséricorde, la tendresse, j'ai rencontré des communautés, souvent des petites communautés qui ne payent pas de mine, qui ne sont pas médiatisées, mais qui vivent vraiment le cœur de l'Évangile, qui est la compassion, l'empathie profonde, le cœur ouvert, à l'image de celui que je considère être comme celui qui inspire profondément ma vie, qui est, pour prendre une métaphore, comme la source vive vivre de ma vie. Jésus qui est l'homme au cœur ouvert, au cœur transpercé, par où coulent des fleuves de tendresse et d'amour. Donc moi, je suis resté parce que j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes. Mais je comprends tout à fait que des personnes aient claqué la porte ou ne veulent plus entendre parler du tout, ni de l'Église catholique, ni d'autres religions, parce que ils n'ont pas souvent rencontré d'autres visages, et puis parce que je crois aussi que ces personnes-là questionnent, à juste titre et de manière très juste et souvent très ajustée, les dysfonctionnements du système religieux. Et je pense que toutes les religions, et la religion catholique à laquelle j'appartiens, devraient écouter plus profondément, peut-être, et avec beaucoup plus de sérénité, ce questionnement, parce que ce questionnement est juste et ajusté quand il vient en plus de gens qui ont parfois vécu des expériences traumatisantes. Je me souviens d'une personne au sein de la communion Béthanie, une de nos amies proches, me disant, quand elle a connu la communion, tu sais, j'essaye ici à nouveau d'approcher une communauté chrétienne, si ça marche là, ça sera super, si ça ne marche pas là, ça sera définitivement terminé, quoi. Voilà. Bon, elle est toujours avec nous depuis près de 20 ans. Donc, ça veut dire qu'elle marche pour le coup, et nous marchons ensemble, nous cherchons ensemble.
Alors, la communion Béthanie, presque une vingtaine d'années, en tout cas, dans la conception, dans l'esprit, puis une quinzaine d'années, plus de 15 ans de réalité, de prière, au cœur d'une forme de monachisme intérieur en ville, et non pas clôturé, ni emmuré dans un lieu religieux. Donc, c'est une communion Béthanie dans le monde. Quels sont tes grands points d'espoir, pour terminer, par rapport à ces problèmes de thérapie de conversion, par rapport à l'Église catholique dont tu parles? Quelles sont les évolutions possibles, et qui appelles-tu au changement?
Mes grands points d'espoir, d'espérance, c'est que la parole se libère. Moi, je suis un amoureux de la parole, avec un P majuscule. Je n'ai pas l'homme d'un écrit. La Bible ou tous les textes dits sacrés ne sont pas des écrits. D'abord, c'est une parole. Et en particulier, la religion chrétienne, la religion juive, n'est pas la religion du livre. C'est une religion de la parole en route et qui met en route. Donc, moi, j'ai épousé profondément la parole. Et donc, je suis très heureux qu'aujourd'hui la parole se libère et que les gens, en particulier les plus jeunes, parlent, cachent, alors parfois avec maladresse, mais moi je préfère qu'une parole s'exprime maladroitement qu'elle ne s'exprime pas du tout, parce que je sais ce que c'est que d'avoir vécu dramatiquement la parole muselée, la parole honteuse, la parole enfermée et claquemurée. Bon, donc ça, c'est un point d'espérance, et je suis très heureux, en particulier pour ce qui est de mon combat et ma lutte contre les thérapies de conversion, que la parole se libère. Parce que lorsque les témoignages s'expriment, lorsque des vies s'expriment, c'est inattaquable. J'en veux pour preuve que mon livre, on peut attaquer, bien évidemment, certaines positions que je peux avoir, en particulier sur certaines interprétations de ce que l'on appelle le texte sacré. J'en ai d'ailleurs pas beaucoup d'interprétations, parce que j'estime que de toute manière c'est tellement subtil et complexe. Mais en revanche, on n'a jamais attaqué ma vie, quoi. Enfin, ce que j'ai exprimé de ma vie, parce que c'est inattaquable. Je l'ai vécu. Alors aujourd'hui, mon point d'espérance, c'est que des personnes parlent. Ensuite, alors moi, je crois qu'il faut interroger, alors là, dans le domaine religieux, les institutions religieuses. Mais les institutions religieuses, elles ne bougeront pas parce qu'elles sont dans leur système. Comment on peut faire bouger les lignes profondément d'une institution? Eh bien, en revenant à l'étymologie du mot institution, enfin une des étymologies possibles. Institution, ça vient en partie du latin stare, qui veut dire se tenir debout. Donc une institution, elle n'a plus de sens, elle n'est plus cohérente, elle n'est plus pertinente lorsqu'elle ne permet pas à des femmes et des hommes de se tenir debout. Donc il faut l'attaquer, entre guillemets, là, à son cœur, et il faut qu'il y ait, au sein des institutions et aussi à l'extérieur, des femmes et des hommes, des jeunes en particulier, parce que, bon, je travaille avec des jeunes, je suis adjoint pastoral dans l'enseignement catholique, et je vois bien que lorsque une parole de jeune se met debout, se lève, autrement dit, elle interroge profondément l'institution, elle la fait bouger. Donc moi, j'aspire qu'il y ait de plus en plus de groupes, des fraternités, des communautés, des lieux d'échange où la parole, pour le coup, comme je le disais précédemment, se libère, permet à des femmes et des hommes de se tenir debout et donc d'envisager l'autre, de dire un « je » qui soit au service, pour le coup, d'un « nous ». Et ça va faire bouger l'institution. Ça peut faire bouger les institutions. Les institutions ne bougeront pas tant qu'elles ne seront pas confrontées et affrontées, et ça c'est très positif. Moi, je n'ai rien contre l'affrontement, au contraire. Je crois que ça peut être un magnifique élan de vie quand elles seront confrontées et affrontées à des visages debout. Et finalement, là, vous voyez, moi je rejoins le cœur de l'Évangile. L'autre jour, je parlais avec un jeune chrétien dans mon lycée, et je lui disais, mais si vous deviez garder qu'un seul verset de l'Évangile, vous garderiez lequel, Thomas? Et il m'a dit, ben écoutez, moi, je garderai volontiers cette phrase de Jésus, « Lève-toi et marche ». Alors, c'est une phrase que l'on peut connaître peut-être un peu, mais finalement, elle est très, très, très enthousiasmante. Hein. « Lève-toi », ça veut dire « Prends ton destin en main, n'attends pas qu'une institution ou je ne sais qui te dicte l'extérieur, et puis marche », c'est-à-dire « Invente ta route ». Jésus, c'est ça peut-être qui me fascine le plus dans le christianisme, n'a jamais transformé des femmes et des hommes en suiveurs, mais il a fait des femmes et des hommes appelés à la liberté, avec un horizon, et marche, c'est-à-dire va vers ce que tu considères être ta terre promise, ta terre sacrée, invente, crée. On rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la vie poétique, la vie créative. Mais j'ai beaucoup d'espérance parce que je vois de plus en plus justement cette parole être désenchaînée, quoi. Alors c'est pas facile, hein, et parfois il faut beaucoup beaucoup creuser profondément. Mais quoi qu'il en coûte, je suis engagé, je réitère mon engagement et mon aide, mon soutien à toutes celles et ceux qui libèrent la parole.
Merci Jean-Michel.
Merci à toi Stéphane, merci aux auditeurs et auditrices.
Nous refermons notre page spéciale que nous avions entamée il y a presque un an avec ce numéro de rentrée, avec cette rediffusion des échanges que nous avions eus avec les différents intervenants sur la région, à Marseille, et puis Jean-Michel Dunant à Montpellier. Alors évidemment, lorsqu'on parle religion, eh bien on se tourne vers d'autres prêtres, et nous à Quasar, on peut dire qu'on a presque le pape spécialisé, en tout cas quelqu'un qui est à la pointe.
Radio G 101.5 FM.
Je vous le disais, c'est notre prêtre du droit d'asile, en tout cas c'est celui qui connaît tout sur tout à ce sujet-là, et il est en ligne avec nous. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors, on t'a demandé de nous rejoindre ce soir, et grand merci, parce que j'ai cru voir que tu avais une journée de rendez-vous bien remplie sur l'agenda des locaux que nous occupons. Trêve de plaisanterie. Ce qui était important en cette rentrée 2021, c'était de faire le point avec toi, si tu veux bien, en tant que référent de ce pôle droit des étrangers de Quasar, sur ce que les confinements divers et variés ont produit et la réalité des demandeuses et demandeurs d'asile sur la thématique de l'orientation sexuelle et l'identité de genre que nous on connaît à Quasar. Ça a donné quoi finalement?
Eh bien, c'est-à-dire que le pôle droit des étrangers a toujours fonctionné, hein, sauf pendant les 2 mois de confinement total l'année dernière, tout simplement parce que les administrations OFPRA, CINDA, préfecture ont toujours fonctionné. Donc, il n'était pas question que nous, on arrête, alors que les demandeuses et demandeurs d'asile continuaient à être convoqués pour des entretiens ou des audiences. Donc, nous avons continué et nous avons pendant toute cette période accueilli les demandeuses et demandeurs pour les accompagner dans leur procédure, les accompagner parfois à Paris, à l'OFPRA ou à la CNDA, comme on le fait donc assez souvent. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que l'an dernier et cette année, il y a sur le plan général en France une très nette diminution des dépôts de nouvelles demandes d'asile, parce que avec la crise sanitaire, les frontières difficiles à franchir, il y a beaucoup moins de nouveaux demandeurs d'asile, et ça se répercute à Quasar, puisque aujourd'hui nous accompagnons entre 55 et 60 personnes à l'heure actuelle, alors qu'on était il y a 2 ans quasiment au double.
Oui, on voit la conséquence. Voilà, c'est ça. C'est ce que le Covid nous fait, et sur cette thématique-là. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu as vraiment des colères qui naissent de pratiques qui ont émergé pendant cette période ?
Alors, c'est-à-dire que, oui, par exemple, normalement, l'impossibilité à la Cour nationale du droit d'asile de pouvoir entrer pour accompagner aux audiences les personnes, les entrées étant réservées aux requérants, c'est-à-dire aux demandeurs d'asile, et à leurs avocats. Ça veut dire que, concrètement, la CNDA avait décrété un huis clos total, permanent, pour toutes les audiences, ce qui est tout de même, ce qui pose de grandes questions concernant le droit. On voit actuellement se généraliser à la CNDA ce que l'on appelle les décisions par ordonnance, c'est-à-dire que on ne convoque plus les demandeuses et demandeurs d'asile pour des audiences, on ne les entend plus, on décide uniquement sur dossier. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Les avocats se sont déjà mobilisés contre cette pratique qui tend à se généraliser. Ceci étant dit, nous, pour le moment, depuis le début de cette année 2021, on a, concernant les demandeurs d'asile qui ont bouclé totalement leur procédure, on est quand même autour de 80% de personnes qui ont obtenu leur statut. C'est un chiffre important. La moyenne nationale, c'est plutôt autour de 35%. Donc, on reste quand même confiant, mais c'est parce que, au niveau de l'association, toutes les personnes qui accompagnent les demandeurs d'asile font un travail très approfondi, un accompagnement très important de ces demandeuses et demandeurs d'asile.
Alors, ce qu'on va dire pour que ceux qui nous suivent comprennent, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas exactement comme les travailleurs sociaux de structures existantes, mais vous, parce que vous êtes vous-même LGBT, I+, vous allez véritablement arriver à faire comprendre aux demandeuses et aux demandeurs quels vont être le sens des questions et qu'est-ce qui, dans la culture française, va leur être demandé, eux qui viennent avec une culture complètement étrangère à ces questions.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en règle générale, on va accueillir et travailler avec un demandeur d'asile pendant plusieurs mois, avec des rendez-vous hebdomadaires ou quasiment hebdomadaires, c'est donc énorme. Hein. Et puis, étant donné que nous sommes habilités par l'OFPRA depuis 2016, par exemple, moi encore la semaine dernière, j'étais à l'OFPRA, on accompagne des demandeurs d'asile à l'OFPRA, ce qui nous permet de voir un peu comment se passent les entretiens à l'OFPRA. D'ailleurs, en ce moment, il y a plutôt une évolution. Enfin bon, on sent que c'est en train un peu de changer, pas forcément bien d'ailleurs. Et donc, ça nous permet d'être très pointus concernant les demandes d'asile basées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
Dernière question, Bernard. Est-ce que vous avez réussi dans le pôle droit des étrangers à chiffrer approximativement une moyenne, ce qui ne veut rien dire, le temps passé sur un dossier par rapport à l'ensemble des dossiers qui sont traités?
Ah.
Oui, je sais.
C'est difficilement répondre à cette question-là.
Oui, enfin, on va dire que ce sont de très nombreuses.
Il fallait me la poser avant pour que je réponde.
Oui, oui, oui.
C'est d'autant plus difficile que on a des demandeurs d'asile qui vont être assez rapidement, convoqués à l'OFPRA ou à la CNDA. Il va y avoir des procédures qui vont être rapides. Pour d'autres, c'est beaucoup plus lent. On a un demandeur et une demandeuse d'asile. Ça faisait plus d'un an qu'ils attendaient leur convocation à l'OFPRA, par exemple.
Et c'est pas des cas rares.
Un autre, il y a quelques mois, il a été convoqué au bout de 4 ou 5 semaines. Donc, voilà. Alors, sans aucune raison apparente.
On ne sait pas.
Donc je peux pas donner de, je peux non honnêtement je peux pas répondre.
Tu ne lis pas dans le mar de café, c'est bien dommage. Tu n'es pas druide, donc on ne peut rien faire.
Bon, ce sont des heures et des heures.
C'est clair, c'est ce que je voulais t'entendre dire.
Très important.
Bon, on t'embrasse, prends soin de toi et puis on continue.
Merci,
au revoir.
Merci à toi.
Quoi Quasarant d'hier, 20h48. Nous sommes sur la dernière ligne droite de l'émission du centre LGBTI+ d'Angers, 15 rue de Jérusalem. Et voilà maintenant que nous accueillons pour la première fois, mesdames et messieurs, il n'y a pas de roulement de tambour, mais ça viendra un jour, on aura ça dans la réglette. On va inviter, on s'est dit, on va inviter quelqu'un qui aussi est dans un groupe de l'association, dans un pôle, puisque c'est le titre exact, qui taffe pas mal. Et pour cause sur la thématique de la transidentité. Bonjour, cher inconnu.
Bonsoir, Stéphane.
Alors, quel prénom dois-je utiliser en parlant de toi ?
Alors, mon prénom, c'est Elena, et mon pronom, c'est elle. J'utilise le pronom féminin.
Alors, tu peux nous expliquer pourquoi je te pose la question, à l'instant, comme je viens de le faire ?
Tu me poses la question parce que c'est quelque chose qui est très personnel. L'identité de genre n'est pas forcément similaire à l'expression de genre qu'on peut donner.
Et l'expression de genre explique, c'est-à-dire l'apparence que l'on
l'apparence,
a.
L'apparence, voilà, le style vestimentaire par exemple. Mmh. Il peut y avoir des personnes non-binaires qui choisiront des pronoms particuliers et c'est toujours bien de demander.
C'est pour ça qu'on le fait. Hein. Nous, c'est voilà. Notre habitude à l'association. Quand on rencontre de nouvelles personnes, tac, quel prénom, quel pronom, ça met tout le monde à l'aise. Alors, on vous dit pas qu'on se trompe pas. Hein. Ça nous arrive de mégenrer, mais c'est dans la bonne humeur, la joie, la gaieté et la personne de l'autre côté le comprend aisément et ça passe vraiment bien. Évidemment, il faut faire cet effort-là. Alors, la team trans, c'est quoi exactement dans Quasar ?
Alors, la team trans, on a plusieurs activités. D'abord, notre première activité déjà, c'est de recevoir les personnes qui nous demandent de l'aide. Soit des personnes qui vont être en questionnement, soit des personnes qui vont vouloir démarrer un parcours de transition. Ensuite, on a aussi des réunions transat, donc où qu'on va organiser des groupes de parole pour comparer nos expériences, pour en discuter et voir différents parcours.
D'accord. Et le transat, puisque c'est le nom qu'on a donné, puisqu'on a créé ça avec Archie en été, transat, c'était tout trouvé avec un arrobase à derrière trans. C'est ouvert à qui ? Qui y participe ? Qui n'y participe pas ?
Alors, c'est ouvert à tout le monde, toutes les personnes trans et en questionnement, pas les parents, pas les personnes accompagnantes, cisgenres.
Voilà, voilà. On appelle ça donc
De la non-mixité.
Voilà, et on l'assume.
Voilà.
Et pourquoi c'est important de faire de la non-mixité sur cette thématique ?
C'est important parce que on se confie sur des sujets qui sont très personnels et donc on a besoin de pouvoir partager ça ensemble. Ça peut être beaucoup plus délicat devant des personnes qui ne comprennent pas ce parcours qu'on a vécu en commun.
En gros, on peut peut-être le comprendre, mais en tout cas, on ne l'a pas vécu comme expérience intime et personnelle. Et c'est pour ça qu'on vous laisse entre vous. Mais évidemment, vous êtes, vous, les membres de la team trans, là pour encadrer ces temps. C'est bien cela ?
Tout à fait.
Et alors, qui est-ce qu'il y a dans l'équipe ? Est-ce qu'il y a des prénoms ? Est-ce que tu es toute seule ? Qu'est-ce que tu peux citer, par exemple ?
Alors, je peux citer Amélie, Alix et Charlie, qui voilà. sont très actifs avec moi. Et actifs.
Ah, c'est ça.
Oui. Donc, toutes les quatre, on organise bien les choses ensemble. C'est important d'être plusieurs bénévoles, parce que ça permet de diversifier les expériences aussi.
D'accord. Alors, on reçoit quel type de public et qu'est-ce qui est en train de se passer là pour la team trans ?
Alors, on reçoit tout type de public. Il peut y avoir des personnes âgées aussi, des personnes qui ont 50, 60, 70 ans. Mm-hmm. Mais on remarque de plus en plus que le public est de plus en plus jeune, souvent des mineurs. Mm-hmm.
Et c'est très clair, hein. Depuis le début de la semaine, un appel de parents pour un ou une mineure, et c'est le rythme là depuis la rentrée. Plus oui. les établissements.
Oui, parfois c'est aussi les parents qui nous appellent. C'est eux qui font la démarche parce qu'ils veulent plus d'informations. L'enfant qui est dans son parcours a déjà connaissance de ce qu'il va, traverser. Alors que les parents, ça vient, ça vient comme une chamboulade. Enfin, ça,
c'est ça.
C'est direct, très direct, et ils n'ont pas d'informations. Donc les parents ont besoin de ça, d'avoir des informations.
On va dire qu'ils sont complètement perdus, en fait.
C'est ça.
D'accord. Et ils ont besoin d'être rassurés. Alors, quelle est la position de Quasar sur les demandes, que ce soit des mineurs ou des majeurs, mettons cela, cette question-là à part. Qu'est-ce que tu pourrais dire de la position de Quasar sur les impositions, certaines impositions médicales, comme d'avoir une attestation de psychiatre pour démarrer une hormonothérapie?
Alors, vis-à-vis de l'attestation d'un psychiatre, on est contre, parce que c'est pas un psychiatre de valider le fait qu'on soit une personne transgenre ou non. C'est quelque chose qui, c'est un parcours personnel, et un psychiatre est moins bien placé que nous pour le savoir.
On est bien d'accord. Et quelle est notre astuce? Qu'est-ce qu'on dit aux plus jeunes, ou aux moins jeunes, peu importe, pour essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas nécessaire, mais que eux, ou elle, ou lui, a la clé pour ressentir si c'est la bonne voie? Quelle est notre astuce? Qu'est-ce qu'on utilise comme méthode? Tu vois pas à quoi je fais référence? C'est tout simplement quand on pose cette fameuse question en disant, mais est-ce que tu as déjà eu l'habitude de t'habiller dans le genre que tu souhaites vraiment atteindre et obtenir? Et là, on voit les réponses, quoi. Ce qui est très fort aussi, c'est quand on accueille des plus jeunes, ou moins jeunes, c'est pas la question, et que quand on leur pose la question fatidique et nécessaire de quel pronom, et qu'on l'utilise pour la première fois, parfois ce sont des réactions très, très touchantes.
Tout à fait, oui. Parfois ça peut être la première fois qu'ils entendent ce prénom exprimer, ce pronom. Ça peut être difficile pour les parents, et c'est vraiment quelque chose d'important, parce que le soutien des proches, de la famille, des amis, c'est quelque chose qui aide beaucoup.
On va dire que on propose toujours des rendez-vous individuels avec, pour les mineurs, que les parents s'ils le souhaitent, viennent nous rencontrer d'abord pour nous découvrir, parce qu'on se met à la place de parents qui enverraient des mineurs dans une asso sans connaître les personnes, sans connaître les locaux, et puis ils peuvent venir aussi avec leurs jeunes, et puis des rendez-vous. On rappelle que Quasar a tout à fait la capacité juridique de pouvoir accueillir tous les mineurs sans l'autorisation des parents. C'est un point très important, que ce soit sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Bien évidemment, on agit avec beaucoup de précaution. Donc tu es prête pour les prochaines semaines, parce que là les rendez-vous affluent, je te préviens.
Ah bah tout à fait, c'est une passion pour moi, je prends beaucoup de plaisir à pouvoir conseiller ces personnes-là. On se soucie beaucoup aussi du fait de ne pas les influencer dans leur parcours. Mmh. On souhaite que la personne exprime ce qu'elle ressent, que ce soit pas quelqu'un qui parle à sa place. Et c'est pour ça que souvent, les rendez-vous, l'enfant, quand c'est des jeunes mineurs, demande souvent à être seul au moment du rendez-vous pour partager quelque chose qui peut être difficile devant ses parents.
Bon, ben on te remercie beaucoup, Elena, d'être venue. Et on a le souvenir d'une Elena, il y a un an, qui est venue nous rejoindre. Et c'était un petit peu chaotique, on va le dire. Mais c'était bien. Alors, juste avant de refermer la page de ce Quasar on the Air, on vous rappelle que tous les samedis, c'est permanence au 15 rue de Jérusalem. Ce sont nos locaux de 17h à 19h. Samedi prochain, il y a quoi, Elena? Dis-moi tout.
Samedi prochain, il y a un transat, ça reprend
voilà.
Après la période du confinement.
D'accord, de 15h à 17h, hein, c'est ça?
15h à 17h, oui, voilà. C'est ça.
Et qu'est-ce qu'il y a le 25? T'as noté quoi sur ton agenda le samedi 25?
Le 25 Alors, non, mais si c'est... j'ai pas mon agenda sous les yeux.
Non, mais oui, évidemment. Non, mais c'est la Pride, chérie.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Non, mais
c'est tellement évident.
Pour tout vous dire, Elena est un petit peu à la renverse. Elle est venue en skate, elle a pas trouvé tout de suite la porte du studio. Et elle est un petit peu chamboulée ce soir. Enfin, bref. Bon, grand merci d'être venu nous voir. Merci à Bernard et à vous toutes. et à vous tous qui nous écoutez. On referme cette page de Quasarandes hier. Alors, dans 15 jours, puisque vous le savez, nous sommes une émission qui arrive toutes les deux semaines. Déjà la semaine prochaine, c'est Onyx Live qui reprend avec une nouvelle équipe. On les embrasse. Et puis, on est très heureux d'avoir changé les créneaux. C'était très bien comme ça. Il n'y a pas de difficulté. Et puis, nous, dans 15 jours, on sera juste l'avant-veille de la Pride. Donc, une émission spéciale. Alors, drag queen, trans, intersexe, folle et perdue. Vous serez toutes et tous les bienvenus au micro de Radio G 101.5, Quasar on the air. On vous embrasse tendrement, on était heureux de vous retrouver pour cette première de la saison et on vous dit à dans 15 jours. Ciao, ciao. Au revoir, Elena.
À bientôt. Au revoir.
FM. Radio G, 21h.